France Culture se fait l'écho du forum Le Monde, Le Mans, qui s'est tenu au Mans le 13 novembre dernier sur le thème « Où est le pouvoir ?». Aujourd'hui, quatrième émission, « Si loin, si proche, la leçon kanak », avec Alban Bensa, anthropologue, suivi de « La dualité du pouvoir » avec Karine Grévin-Lemercier, juriste. Une émission présentée par Jean Birnbaum.
Alban Bensa, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc anthropologue, l'un des plus connus de l'anthropologie française. Vous êtes spécialiste de la Nouvelle-Calédonie en particulier. Depuis près de, je pense, de 40 ans, en fait, vous menez des recherches sur la Nouvelle-Calédonie. Vous avez aussi été proche de Bourdieu à un moment donné, de Georges Balandier également. Et vous avez donc mené un travail de longue haleine à l'écoute du monde kanak, tout particulièrement de sa tradition orale aussi, et notamment de ce qu'on appelle les ténons. Hein, je crois que ça s'appelle comme ça, les ténons, c'est de longs poèmes, vous en parlez sublimement bien, de longs poèmes qui font souvent des centaines de vers et qu'on retrouve en majesté dans votre dernier livre, qui a un très beau titre qui s'intitule « Les sanglots de l'aigle pêcheur ». C'est paru chez Anacharsis et c'est un peu le point d'orgue ou le point d'aboutissement de votre itinéraire empirique et théorique. Dans ce livre co-signé avec un linguiste et un historien, vous revenez sur un événement aussi important que méconnu, une rébellion noyée dans le sang, donc en Nouvelle-Calédonie en 1917. Et en vous appuyant donc sur ces noms, ces poèmes versifiés, vous en faites une analyse très fine et vous éclairez donc cet événement social et politique, cette révolte. Et c'est l'occasion aussi, et surtout peut-être pour vous, d'une réflexion sur la place et les lieux de pouvoir, non seulement le pouvoir colonial, hein, mais aussi, et on revient à ce que je disais à propos de Luc Boltanski et Nathalie Hennick aussi, c'est-à-dire le pouvoir du chercheur. Il y a une réflexivité critique chez vous, avec un vrai refus des catégories figées, des frontières arbitraires, et donc en permanence un retour sur vous, sur votre pratique et sur les lieux du pouvoir intellectuel. Alban Bensa, merci beaucoup d'être là. Vous avez la parole donc pour 20 minutes.
Merci beaucoup Jean Birnbaum de m'avoir convié à ce forum pour réfléchir sur cette question « Où est le pouvoir ?». Alors, quand j'ai reçu la proposition de Jean Birnbaum de discuter de ces questions, je me suis dit « Bon, il y a des gens en sciences politiques, en sociologie, en philosophie politique, etc. qui sont en quelque sorte habilités à parler de ces questions à un niveau assez général ou comparatif, etc. » Et dans cet aéropage de réflexion et de chercheur, qu'est-ce que mon expérience en Nouvelle-Calédonie kanak pouvait bien apporter? Voilà. Et quelles sont les questions que je pouvais poser qui, tout en venant d'un espace social, historique, culturel, lointain, pouvaient alimenter le débat bon. Alors, en écoutant mes collègues jusqu'à présent, je suis complètement rassuré. Effectivement, j'ai quelque chose à dire sur la question, mais comme en écho, si vous voulez, comme en écho. Je ne vais pas me livrer à une dissertation en citant... Je pourrais le faire une sorte de cours sur où est le pouvoir, etc. Mais comme Jean Birnbaum, d'ailleurs, me l'a demandé, ou du moins en se référant à mes travaux et à cet ouvrage collectif « Les sanglots de l'aigle pêcheur », l'idée, c'est plutôt de montrer comment les mains dans le cambouis, dans les extraits d'entretien, dans une pratique longue du terrain, je pouvais, en quelque sorte, faire rebondir la question. Et les notions de complot, d'emprise, de chef caché, de naturalisation du pouvoir, toutes ces questions traversent mon matériel ethnographique. Mais je n'aime pas tellement m'éloigner de mon matériel ethnographique, surtout quand il y a des grandes assemblées, je préfère me rassurer en m'accrochant à mon cocotier. Et donc là, je vais vous parler très précisément, succinctement mais précisément, de cette ethnographie du monde kanak. Alors je vais en parler d'une façon particulière, ou du moins qui est l'héritage de Balandier principalement, qui est de ne pas penser
de Georges Balandier,
pardon, donc un grand sociologue qui est toujours parmi nous, et sociologue et anthropologue, et qui a refondé en quelque sorte les recherches en Afrique, et qui avait justement publié une thèse qui était un peu l'antithèse de Lévi-Strauss, en parlant de sociologie de l'Afrique et pas d'anthropologie, c'est-à-dire qu'il voulait inscrire son travail dans ce qu'il a appelé la situation coloniale. Et c'est un peu sur cette voie que je me suis engagé, tout à fait sur cette voie, c'est-à-dire, je pense qu'il n'est pas possible de penser ce monde insulaire océanien lointain sans la question coloniale. La Nouvelle-Calédonie ayant été prise par la France, c'est-à-dire capturée par la France, Jean-Marie Djibaou disait que la France l'avait prise parce qu'elle ressemble à une baguette de pain, en 1853. Donc la Nouvelle-Calédonie est colonisée par la France depuis 1853, mais connaît actuellement un processus d'évolution rapide qui pourrait l'amener à une large autonomie, voire à l'indépendance. On va pas parler de ça maintenant. Toujours est-il que les recherches que j'ai menées là-bas ne veulent pas oblitérer ou évacuer ou faire comme si la colonisation n'avait pas eu lieu. Et pour les questions de pouvoir, cela est tout à fait central. En effet, la question que je voudrais développer est la suivante. En quoi la conquête coloniale a-t-elle transformé les dispositifs politiques existants antérieurement en Nouvelle-Calédonie kanak, et comment ces dispositifs perdurent encore aujourd'hui malgré, sous ou à côté du dispositif politique imposé progressivement par la colonisation. L'effacement des autorités, les emprises sur les individus, la reconnaissance des hiérarchies de suggestions politiques antérieures à la conquête coloniale ne signifie pas leur disparition ni leur fin définitive. Ce serait sans compter d'abord avec l'inertie du monde social, et c'est une constante que relèvent souvent les anthropologues, une inertie du monde social et politique qui peut se transformer en résistance passive ou active, mais les choses ne disparaissent pas aussi simplement. Il y a un véritable fond anthropologique qui perdure, qui se perpétue dans l'histoire et qui se transforme dans l'histoire. Ainsi, dans le pays conquis, vient jouer un feuilletage de pouvoir qui brouille les cartes, les superpose. Chacune de ces cartes correspond à des strates de rapports sociaux spécifiques. J'en évoquerai trois, dans lesquelles le politique et la référence aux chefs sont centrales. La parenté, où sont reconnus des chefs de clan. Le terroir, où le territoire, où le chef et le maître du sol se partagent l'exercice de l'autorité. Et enfin, la chefferie administrative, c'est-à-dire cette chefferie soutenue par la France, par les Blancs au XIXe siècle, pour installer son propre pouvoir, la chefferie administrative, où le chef administratif a été en quelque sorte imposé contre les chefs de clan et de terroir. L'ambition de la France était de mettre fin à une sorte de pluralisme de chefferie, à un pluralisme politique dans lequel d'ailleurs les autorités françaises se perdaient complètement, et de mettre en place un chef nommé par la France et pouvant servir de relais à la fois économique, judiciaire, policier pour imposer la colonisation. Alors pour chacun de ces types de chefs, si on veut, les légitimités sont différentes et passent par des constructions narratives particulières. Car le pouvoir, et là-dessus je rejoins tout à fait mes collègues et les discussions qu'on a déjà eues tout à l'heure, aujourd'hui, jusqu'à présent, car le pouvoir c'est d'abord le récit sur le pouvoir, c'est le récit du pouvoir, surtout en situation coloniale, où les pouvoirs locaux, indigènes, sont combattus par les nouveaux occupants. Donc si vous voulez, la vision des vaincus est toujours une réflexion, méditation sur les pouvoirs disparus. Et si les questions de chef sont aussi importantes dans les récits, les narrations, les poésies que nous pouvons recueillir en Nouvelle-Calédonie kanak, c'est parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la perte. Des pouvoirs ont été perdus. Alors jusqu'où sont-ils perdus? Ont-ils complètement disparu? Peuvent-ils être restaurés? Que reste-t-il de ces systèmes politiques anciens? Alors dans la parenté, qui est le schéma immédiat de tout Kanak aujourd'hui, dans la Nouvelle-Calédonie contemporaine et bien sûr ancienne, le pouvoir, c'est le lien à l'ancêtre ultime. C'est-à-dire que le chef de clan, c'est l'expression de l'ancêtre, de l'aîné, du plus ancien, de celui qui a fondé le groupe patrilinéaire de parents. Et d'ailleurs, le chef de clan naît souvent d'un mystère qui donne lieu à des récits fondateurs, à des mythes fondateurs, d'ancêtres qui, dans ces mythes, prend la forme d'un animal. Il est directement, en général, présenté comme le père de l'enfant qui va devenir le chef, y compris le chef d'aujourd'hui, le chef actuel. Pas rare que quelqu'un dise « je descends d'un oiseau, je descends de ces arbres ». C'est très bien qu'ils ont un père biologique, mais pouvoir dire cela, c'est s'installer, poser une légitimité dans la parenté par cette filiation, disons, extraordinaire. Donc le chef de clan reste un parent, un aîné, une incarnation de l'ancêtre, au contact de qui on se régénère. Et l'arrivée du chef de clan ou la position du chef de clan est une position nimbée comme ça d'un certain mystère. Il est en rapport avec quelque chose qui le dépasse et qui l'a institué. Alors dans le territoire, dans ce qu'on appelait les chefferies anciennes, un terroir, c'est un regroupement de branches de clans venant de différents endroits, dans une même vallée, un même rivage, dans un même espace. Et à l'intérieur de ce territoire, de ce terroir, les modes d'organisation de la chefferie Kanak mettent souvent en avant l'accueil de l'étranger comme chef. Pour ceux qui connaissent l'anthropologie un peu, un des grands thèmes de l'anthropologie politique océanienne, d'Océanie, et notamment développé par un grand anthropologue américain de Chicago, Marshall Salins, c'est l'idée que les maîtres du terrain, les anciens, ceux qui sont issus du terroir, qui sont arrivés les premiers, ou qui sont sortis des cailloux et des arbres qui sont là, ont accueilli un personnage venant de l'extérieur et lui ont donné la chefferie, l'ont installé comme chef, et ainsi ils se partagent deux formes de pouvoir, un pouvoir mystique, religieux, foncier par les maîtres du terrain, les maîtres du sol, et puis un pouvoir de représentation, de diplomatie, de guerre, éventuellement par le chef étranger installé. Et cette dynamique fonctionne dans beaucoup d'endroits du Pacifique. Alors évidemment, dans ce que je vous raconte là, dans ce chef étranger accueilli, il y a, par les maîtres du terrain, il y a une part aussi de narration. On est déjà dans la narration. Je n'ai jamais vu un chef étranger accueilli par un maître du terrain. C'est le problème de l'anthropologue, d'ailleurs, qui, contrairement à ce qu'on pense, souvent n'a pas vu ce dont il parle. Et donc là, les gens racontent simplement ça. Et en fait, on s'aperçoit, quand on gratte un petit peu, que le titre de chef n'est parfois attribué à un étranger pour mettre un terme à des querelles internes de succession de la chefferie, et les pouvoirs dont on semble créditer ce chef étranger ne sont que l'expression de l'autorité des maîtres du sol qui en sous-main font fonctionner la chefferie. Donc on a bien cette idée très, très intéressante développée tout à l'heure par Luc Boltanski entre le pouvoir officiel et le pouvoir officieux. Et dans ce monde mélanésien, le rapport entre l'officiel et l'officieux est constant. On va y revenir tout à l'heure. Enfin, dans la chefferie administrative, alors là, on est dans l'histoire, dans l'histoire du 19e siècle, quand à partir de 1864, la France décide de nommer des chefs administratifs. Donc l'origine de ce chef est historique, en tant qu'elle est appuyée par les Français et les militaires français au 19e siècle. C'est ainsi qu'une chefferie administrative ne peut émerger que si la colonisation, que si les colonisateurs appuient un groupe au détriment des autres. Bon, la stratégie de la France est... Bon, il y a tous ces chefs de clan, il y a ces chefferies, ces chefs de terroir, ces maîtres du sol, dont les archives disent on n'y comprend rien, on ne sait plus qui est qui. Le chef étranger dit « Ah, c'est pas moi qui ai le pouvoir, c'est le maître du sol. » Le maître du sol dit « Ah, mais moi, je suis aussi chef dans mon clan. » Et d'autres, non, moi, je suis que sujet dans mon clan, mais maître du sol. » Enfin, c'était trop compliqué. Et donc, ils vont appuyer un clan contre tous les autres, notamment militairement, et imposer, au terme de guerre souvent très très violente, ils vont imposer un groupe au détriment de tous les autres. Donc dans sa foulée sont éliminés les clans et les chefs de clans qui, dans la région, voulaient préserver leur indépendance. Enfin, le chef administratif est donc vanté pour ses activités des guerrières. C'est celui qui remporte des guerres, même si ces guerres sont appuyées par des contingents blancs. Et d'ailleurs, on le voit comme un militaire, puisque la France, une fois qu'il a installé ce chef administratif, lui a mis un képi, une veste militaire et lui a mis des galons. Hein, c'est cette idée d'un chef militaire finalement à la solde de la colonisation. Alors, dans ce jeu compliqué, donc indifférente au mode d'organisation des populations qu'elles administrent, les autorités françaises tentent d'imposer quelques familles ou autres lignées, espérant ainsi constituer des sortes de dynasties. D'ailleurs, la France va immédiatement décréter que ces chefferies administratives est héréditaire. C'est assez original, c'est-à-dire le modèle monarchique va être imposé à ces gens, ces Kanaks conquis. Les Kanaks, pour leur part, établissent à l'intérieur du clan des distinctions hiérarchiques, etc., etc., et donc vont jouer dans les attitudes tout un ensemble de dispositifs de respect, de politesse, une sorte de préciosité sociologique qui a échappé aux autorités coloniales, parce que même si vous êtes chef administratif, ce qui est intéressant, c'est cette notion de chef est toujours nimbée d'une sorte d'altérité. C'est un personnage qui est différent. Quelquefois, il peut être habillé comme tout le monde, mais on ne le distinguerait pas, mais il est différent, il ne parle pas beaucoup, il est à part, et on respecte ainsi des hiérarchies qui ont été, que l'administration française, évidemment, elle ne percevait pas. En Nouvelle-Calédonie, l'État français a ainsi monopolisé la légitimité de la violence à l'encontre des Kanaks, tout en leur interdisant de se déplacer et de se faire la guerre, et donc de fonder de nouveaux ordres politiques. Il s'en est logiquement suivi, évidemment, des explosions de violence, etc. Face à cette complexité politique accrue, l'administration coloniale s'est trouvée embarrassée. Lui fallait-il confirmer le pouvoir des maîtres du sol ou bien soutenir la position des chefs dits traditionnels, donner une prime aux conquérants ou soutenir les conquis à la recherche d'une aide militaire pour se protéger? Comment choisir entre les notables? Les réponses furent pragmatiques. La France a soutenu des pouvoirs locaux, peu lui importait lesquels, à condition seulement qu'ils soient simplifiés et lui fassent allégeance, quitte à négliger ou même à combattre les autres. Alors cette lecture ethnocentrique par les autorités françaises en termes de distinction entre classes et de lutte sociale, oui, alors, pour les Français, la France, il est évident que s'il y a un chef, il y a des sujets, et qu'ils appartiennent pas à la même classe. Et donc, la projection des structures de classe, y compris des structures d'ancien régime, dans la vision des populations des pays colonisés, a certainement pesé chez les premiers gouverneurs de la Nouvelle-Calédonie et dans l'administration coloniale. Bien entendu, cette attitude rigide, caractéristique de toute l'histoire de la colonisation, a fait des dégâts dans les ordres politiques kanak. Le fonctionnement des chefferies internes au clan et dont les membres étaient dispersés dans diverses localités furent gênés par la création de ces chefferies. Alors, on en est arrivé à une situation que trouve l'ethnologue, qui est tout à fait paradoxale. Alors, l'ethnologue est un être aussi inscrit dans le système colonial. Donc, quand il arrive, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire. Il dit « Où est le chef ?» Bon, question idiote. Alors, on lui dit « Il est parti à Nouméa. » Bon, en général, j'arrivais jamais à trouver le chef. Puis quand je trouvais quelqu'un, il me disait « Mais vous savez, moi, je suis rien. Le vrai chef, c'est celui qui est là-bas, mais qui parle pas, etc. Moi, j'ai pris ce titre-là parce que il y a eu un recensement qui a été fait. Ça a été... » Donc, il y a un feuilletage des pouvoirs qui mine les attitudes politiques locales, au point, pourrait-on dire, qu'un chef peut toujours en cacher un autre. Il est assez fréquent de voir opposer à un personnage qui se dit chef l'existence cachée d'un vrai chef plus légitime, quelle qu'en soit l'origine. Ce personnage, un lien mystérieux, reste dans l'ombre au point que son nom peut être signalé sous couvert de confidences ou de secrets. Je me souviens d'un monsieur qui m'avait dit « Je vais vous dire mon vrai nom et après je vais mourir parce que c'est un nom très prestigieux. » Je lui ai dit « Non, n'en faites rien. Surtout pas, je ne veux pas le savoir. » Il m'a donné son nom et il est mort. Donc, je ne sais pas comment l'interpréter, mais il y a des textes de Mauss sur les morts annoncées comme ça. Est-ce qu'il s'est laissé mourir? Est-ce qu'il y avait trop de conflits dans l'endroit? Enfin, j'en sais rien.
On aurait dû l'inviter au forum sur la promesse.
voilà, exactement. Il n'est pas rare que cette position de retrait des personnages secrètement les plus importants soit aussi présentée comme une résistance à la colonisation. Les vieux, dit-on, auraient mis en avant un homme pour les blancs, que ces derniers auraient pris pour un chef, tandis que derrière se tenaient le chef authentique et les maîtres de la terre, seuls détenteurs d'autorité et d'influence. Ainsi, au fil des enquêtes, le chef apparaît-il souvent en creux, comme une ultime et quasi insaisissable référence. Les ambitions du chef reconnues par les coloniaux sont ainsi déconsidérées dès lors qu'on les renvoie à la légitimité des chefs dissimulés. Ces derniers sont d'ailleurs souvent mis en avant par les interlocuteurs des ethnographes, qui cherchent ainsi, on cherche à faire en sorte que les ethnographes rétablissent par le truchement de leur enquête la vérité sur les rangs, voire à s'inscrire eux-mêmes dans cette discrète promotion. C'est-à-dire souvent les gens qui viennent parler à l'ethnographe sont des gens qui espèrent que l'ethnographe va pouvoir reconstruire leur statut de chef. Et donc les utilisent, et donc, comme disait Jean Birnbaum tout à l'heure, j'ai réfléchi sur cette façon qu'ont souvent les Kanaks d'utiliser l'ethnographe, l'ethnologue, pour leur propre stratégie. Et comme me disait récemment le maire de Koné, sur une petite ville de la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie, je suis, disons, intégré à son groupe familial, il me disait, alors il est venu à Toulouse pour présenter le livre, etc., il me disait, c'est quand même bien d'avoir un ethnologue dans son clan. Donc, voilà, parce que, dans le livre, il y a mis en avant un personnage, donc il dit, portez le nom aujourd'hui, et, etc., etc. Donc, les complications induites par cette mise en abîme des titres nourrissent l'obscure question des chefs dans les relations coloniales. Car les anciens pouvoirs des clans ne disparaissent pas pour autant, ainsi la colonisation démultiplie-t-elle les lieux du pouvoir jusqu'à l'imbroglio. Alors, encore deux idées. Ces chefs de clan se sont trouvés donc écrasés par les chefs administratifs, et dans le cas que nous avons étudié avec Adrien Muckel et Yvon Gromoendo dans ce livre, les chefs de clan vont se révolter contre les chefs administratifs quand les chefs administratifs vont être sommés par les autorités françaises de fournir des volontaires, entre guillemets, pour aller se battre à la guerre de 14-18. Et à ce moment-là, les chefs de clan vont dire « on en a marre de ces chefs administratifs, on ne veut pas leur obéir et nous voulons restaurer notre autorité ancienne ». Donc il va y avoir un affrontement entre chefs de clan et chefs administratifs. Et plus curieux encore, plus intéressant pour moi encore, c'est que ces positions politiques différentes, la légitimité du chef de clan reliée aux ancêtres, dans la parenté, si vous voulez, et puis la légitimité du chef administratif tout entier guerrier et appuyé par le militaire français, tout ça, ça va donner lieu à deux types de constructions narratives dans ces ténons, qui sont ces poésies en vers de 8 pieds que nous avons traduites dans ce livre, des poésies lancé par les rebelles qui défendent un certain type de chef qui est un parent, un ancêtre, etc. Et puis des poésies d'un autre type de chef qui est une sorte de roi appuyé sur l'autorité militaire. Et ainsi, on voit bien que la position de chef, je ne veux pas dire le pouvoir, est fonction du récit. Enfin, il y a une articulation très très forte entre le récit et le pouvoir. Le récit et la narration du pouvoir fait pouvoir. Et je crois que c'est encore plus fort dans les situations coloniales, parce que on n'est plus sûr de rien, on ne sait plus exactement qui a le pouvoir sur qui. Parce qu'il y a une perte. Et donc, si les ethnologues recueillent beaucoup de mythes, c'est que, comme le disait Victor Hugo, au vaincu, il est permis de rêver. Oui, hein, il y a quelque chose qui est perdu, et les ethnologues souvent prennent pour des réalités immédiates des choses qui sont des reconstitutions tardives, un peu d'ailleurs que ça a été dit pour la Maison Kabyle, texte célèbre de Pierre Bourdieu, qui est l'image idéale de cette Maison Kabyle a été donnée par des gens qui étaient dans des regroupements forcés, avaient été mis là par la colonisation française. Alors pour conclure, le pouvoir se trouve donc dans les récits du pouvoir. Alors dans une société, dans un univers comme l'univers kanak, où il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'agora, il n'y a pas de place de village, chaque personne qui prend le pouvoir, qui prend la parole, le prend pour elle-même, si vous voulez, dans un jeu d'affrontement et de compétition, à la grande différence de l'agora démocratique, on peut imaginer, en tous les cas, qu'il y a un espace dans lequel les gens dotés de pouvoir, ou à qui on décerne, ou on donne du pouvoir pour un certain temps, ne restent pas. Alors que là, donc, la question que je voulais poser, hein, l'entrelac des pouvoirs reconduits ou abandonnés, détournés, phagocytés ou créés de toutes pièces, a marqué la confrontation entre le régime colonial et le dispositif hiérarchique kanak. La mémoire kanak a ainsi développé une réflexion lancinante et amère sur la démultiplication des instances politiques locales induites par les agissements calculés ou aveugles de l'administration coloniale française. Penser l'histoire de ce puzzle politique, ses vestiges et ses effets jusqu'au cœur du monde contemporain, du monde actuel, nous plonge-t-il dans un univers exotique ? Ou bien ces situations font-elles écho à celles que nous connaissons dans nos démocraties ? Et en fait, ce que je voulais essayer de montrer ou d'apporter un éclairage, voyez bien que toutes ces questions ne nous sont pas étrangères. Et dans le souci que j'ai de consacrer, qu'est-ce qu'on pourrait appeler la fin de l'exotisme, je ne pense pas qu'il y ait des sociétés radicalement autres, qu'il y ait des altérités radicales, il y a des différences, des solutions différentes qui sont données, des contextes historiques différents qui sont développés, mais nous sommes dans une même humanité où les mêmes problèmes se posent partout et souvent des solutions comparables sont proposées. Donc j'espère que ce détour par le monde kanak va plutôt nous enrichir dans un débat sur notre propre univers, sur l'univers mondial d'aujourd'hui, et pas nous envoyer dans la voie de garage de l'ethnicisation. Merci. Merci.
Vous écoutez France Culture, forum Le Monde Le Mans avec Jean-Birnbaum.
Après Alban Bensa, je vous propose d'écouter maintenant Karine Grévin-Lemercier, que je remercie également mille fois d'avoir accepté notre invitation à ce forum. Karine Grévin-Lemercier, vous êtes maître de conférence ici même à l'Université du Maine, qui est partenaire et organisatrice de ce forum, comme on l'a dit ce matin. Vous enseignez également à l'IUT ici, d'ailleurs vous enseignez depuis longtemps, vous avez déjà une vraie belle expérience d'enseignement et de transmission. Vous êtes juriste, vous travaillez donc sur le terrain du droit et exactement comme je disais tout à l'heure On aime donner sa place à l'anthropologie. On invite aussi régulièrement des juristes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Michel Tropert, par exemple, qui était venu ici même à cette tribune. Et donc, Karine Grévin-Lemercier, vos recherches portent en particulier sur un thème tout à fait passionnant auquel vous avez du reste consacré votre thèse. On parlait ce matin de confiance, etc. Vous travaillez sur la loyauté, le devoir de loyauté en particulier, la loyauté au miroir et au crible donc du droit. En vous interrogeant notamment sur le devoir de loyauté dans le droit des sociétés, le devoir de loyauté des dirigeants sociaux, du salarié, entre autres. Et vous élargissez en ce moment même vos travaux à un thème qui devrait réjouir tous les étudiants en droit qui sont présents dans cette salle, j'imagine, c'est les liens entre le bonheur et le droit. C'est très beau. Merci beaucoup, Karine Grévin-Lemercier, d'être avec nous. Vous avez donc la parole à votre tour pour 20 minutes. Merci.
Merci beaucoup. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je tiens tout d'abord à remercier Jean Birnbaum de m'avoir fait l'honneur de me demander d'intervenir à ce forum et par la même occasion de représenter l'Université du Maine qui est partenaire du forum. C'est donc avec un réel plaisir que j'interviens devant vous aujourd'hui dans le cadre de ce forum intitulé « Où est le pouvoir ?». Alors sur cette thématique, plusieurs pistes étaient envisageables. Il y avait la piste sur les contre-pouvoirs. J'ai choisi de porter mon attention sur la question de savoir précisément où est le pouvoir en droit privé, ce qui m'amène à intituler mon intervention « La dualité du pouvoir en droit privé ». Alors en droit privé, la notion de pouvoir est relativement récente. L'existence même de la notion de pouvoir en droit privé a pu paraître douteuse. C'est seulement à partir de la seconde moitié du XXe siècle que l'existence d'une notion juridique de pouvoir s'est peu à peu affirmée. Elle s'est un peu affirmée avec la loi, avec la jurisprudence qui, tout doucement, avait recours à cette notion de pouvoir, aux notions de détournement de pouvoir. La doctrine, également, s'est de plus en plus intéressée à cette notion. Tout particulièrement, l'étude du pouvoir s'est développée dans diverses branches du droit. On retrouve la notion dans le droit des contrats spéciaux avec le mandat, dans le droit des personnes avec la tutelle et l'administration légale, dans le droit du travail avec l'employeur, ou encore dans le droit des sociétés pour le dirigeant ou l'associé majoritaire. Mais les travaux consacrés à ces questions restaient limités à ces diverses branches du droit sans qu'il y ait une véritable théorie générale du droit privé, du pouvoir, pardon, en droit privé. Alors les raisons de cette frilosité à reconnaître une notion autonome de pouvoir en droit privé étaient de deux ordres. D'une part, certains auteurs voyaient en toute manifestation la notion de pouvoir le signe avant-coureur d'une dangereuse colonisation du droit privé par le droit public. Certains parlaient même de sa publicisation. Deuxième raison à cette frilosité, et dans le même ordre d'idée, une partie de la doctrine civiliste classique demeurait attachée au contrat, rejetant l'idée d'une conception générale du pouvoir. En effet, dans la conception civiliste, le rapport juridique établi entre deux personnes ne peut être perçu que comme un rapport contractuel dans lequel le pouvoir n'a pas de place. Or, ce rapport contractuel, de nos jours, est de moins en moins un rapport d'égal à égal tel qu'il a été conçu par les rédacteurs du Code civil en 1804, mais de plus en plus un rapport de pouvoir. Par exemple, très rapidement, en droit du travail, le pouvoir qu'a l'employeur d'imposer sa volonté au salarié est reconnu sous la forme de subordination. Subordination qui fait du travail un rapport de pouvoir. Alors, si le rapport de travail est aujourd'hui toujours un rapport contractuel avec le contrat de travail, le droit n'en reconnaît pas moins sa double nature, celle à la fois d'un rapport contractuel et celle d'un rapport de pouvoir. Alors, l'étude générale du pouvoir comme notion autonome s'est tout doucement fait sentir et elle a vu le jour sous la plume d'un professeur de droit, Emmanuel Gaillard, dans sa thèse intitulée « Le pouvoir en droit privé » qui est parue aux éditions Economica en 1985. On doit à cet auteur la définition du pouvoir en droit privé. Alors je le cite, puisque la définition est importante, selon lui, le pouvoir se caractérise par le fait qu'il est confié à son titulaire dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien. Cela signifie que le pouvoir impose à son titulaire un devoir d'agir dans un intérêt déterminé. Il ne peut jamais chercher à le détourner de sa finalité en usant, par exemple, dans un intérêt personnel, ou du moins dans un intérêt distinct de la personne bénéficiaire du pouvoir. Alors cette définition du pouvoir en droit privé, vous l'aurez compris, est très importante, puisque non seulement elle permet d'identifier en droit privé la notion de pouvoir, mais surtout elle permet de la distinguer d'autres notions avec lesquelles le pouvoir pourrait se confondre. Tout particulièrement, le pouvoir ne doit pas se confondre avec l'exercice d'un droit subjectif. Le droit subjectif, c'est le droit dont toute personne peut être titulaire. L'exemple le plus symbolique de droit subjectif, c'est le droit de propriété. Pourquoi cette distinction? Tout simplement parce que le pouvoir et les droits subjectifs ont longtemps été confondus, ont longtemps été des notions consubstantielles. Les prérogatives accordées par le droit à une personne ont d'ailleurs été présentées pendant longtemps comme l'expression d'un pouvoir égoïste. Or, la distinction entre droit subjectif et pouvoir est importante. Cette distinction apparaît tout d'abord donc dans la détermination des notions. Les droits subjectifs sont conférés dans l'intérêt propre de la personne, titulaire de ces droits. Les titulaires de droits subjectifs n'ont jamais convenu d'agir dans l'intérêt d'une autre personne, mais plutôt ils agissent dans leur intérêt personnel. Je veux citer ici les propos d'un grand professeur de droit, qui n'est plus aujourd'hui parmi nous, le professeur Dabin. Je cite « La fin des droits subjectifs est de toujours servir au bien de leur titulaire, lequel en est le légitime destinataire et bénéficiaire. » Par opposition, le pouvoir, cette fois, confère à son titulaire la prérogative de prendre des décisions, cette fois dans l'intérêt d'autrui et non dans son intérêt propre. Pour illustrer ce propos, l'on peut prendre l'exemple des droits accordés à l'associé d'une société, société civile, société commerciale. Droits qui sont accordés pour sa participation à la vie sociale, le plus connu étant le droit de vote. Ce droit est attribué à un associé dans l'intérêt de son titulaire, dans l'intérêt de l'associé, et en conséquence, ce sont des droits individuels ayant pour finalité première l'intérêt de l'associé. Par contre, l'exercice de ce droit se transforme en pouvoir lorsque l'associé détient la majorité des droits de vote, puisque dans ce cas, il ne s'agit plus d'une décision individuelle, mais d'une décision sociale, d'une décision qui émane d'un organe social qu'est l'Assemblée générale et qui participe à la prise de décision. Donc dans cette situation, le pouvoir au sein de l'Assemblée générale ne peut être utilisé dans l'intérêt de l'associé, mais il doit être utilisé dans l'intérêt de la société, puisque le pouvoir au sein de l'Assemblée générale ne lui est pas donné dans son intérêt personnel, mais bien dans l'intérêt de la société. La distinction entre la notion de pouvoir et de droit subjectif apparaît également dans la caractérisation de la faute. Le pouvoir exercé par une personne dans une finalité étrangère à l'intérêt d'autrui, par exemple dans un intérêt personnel, eh bien, la faute ici constitue ce que l'on appelle un détournement de pouvoir. Alors que le droit subjectif, qui est exercé, par exemple, dans un intérêt de dans le but de nuire à autrui, d'une manière excessive, d'une manière déraisonnable, eh bien, la faute, dans ces cas-là, est un abus de droit. Le pouvoir doit donc se distinguer de la notion de droit subjectif afin d'éviter donc la confusion entre le détournement de pouvoir et l'abus de droit. La définition du pouvoir et partant donc la détermination du pouvoir en droit privé présente l'intérêt avant tout d'imposer des obligations spécifiques aux personnes détentrices du pouvoir. Parmi ces obligations, il y a des obligations qui émergent depuis quelques années, telles que les obligations de loyauté. C'est le professeur Pétel, dans sa thèse consacrée aux obligations du mandataire, soutenue en 1988 et publiée aux éditions Litec, qui a saisi la corrélation entre le pouvoir et notamment le devoir de loyauté. Je cite « À cette fonction spécifique correspond une obligation spécifique propre à tous ceux qui se voient attribuer un tel pouvoir. Cette obligation spécifique à l'attributaire de pouvoir peut être qualifiée d'obligation de loyauté. » Alors très rapidement, ce devoir de loyauté, proche des fiduciary duties des pays de common law, impose au titulaire d'un pouvoir d'agir uniquement dans l'intérêt du bénéficiaire. Autrement dit, il ne doit pas utiliser sa position à l'encontre des intérêts de la personne pour laquelle le titulaire du pouvoir agit. À défaut, donc, il commettrait un détournement de pouvoir. On voit ici surgir la notion de conflit d'intérêts qu'a évoqué rapidement tout à l'heure M. Boltanski. Par exemple, le devoir de loyauté interdit au titulaire d'un pouvoir de l'utiliser dans un intérêt personnel et impose donc corrélativement des obligations telles que l'obligation de révéler l'existence d'un conflit d'intérêts, l'obligation de ne pas être partie à un contrat dans lequel le titulaire de pouvoir a un intérêt direct ou indirect, ou encore l'obligation de ne pas voter de manière intéressée. Ce devoir de loyauté répond à un besoin de moralisation ambiant, à de nouveaux impératifs qui doivent guider toute personne titulaire d'un pouvoir. Et là, on touche ici à la question de savoir précisément où se trouve le pouvoir, qui est détenteur du pouvoir, envers qui, comment déterminer les personnes détentrices d'un pouvoir d'agir dans l'intérêt d'une autre personne et existe-t-il des critères ? C'est à ces questions que nous tenterons de répondre en envisageant dans un premier temps la conception traditionnelle du pouvoir, une conception dite normativiste, à laquelle est rattaché le pouvoir juridique, et nous verrons dans un second temps la conception plus moderne du pouvoir à laquelle est rattachée la notion de pouvoir factuel. Alors, s'agissant tout d'abord du pouvoir juridique, dans une conception traditionnelle du pouvoir, donc dite normativiste, l'existence d'un pouvoir d'agir dans l'intérêt du bénéficiaire est déterminée par la norme attributive de pouvoir. Cette norme attributive de pouvoir, elle est principalement légale, c'est-à-dire la loi. La loi attribue un pouvoir à une personne déterminée et précise de façon générale et abstraite dans quel but ce pouvoir doit être utilisé. Alors, on retrouve précisément ces relations de pouvoir dans la loi, qui comporte invariablement un pouvoir d'agir dans l'intérêt du bénéficiaire. Par exemple, les parents doivent agir dans l'intérêt de l'enfant. C'est l'article 371-1 du Code civil. Le tuteur doit agir dans l'intérêt du mineur, article 408 du Code civil. Les prestataires de services d'investissement doivent agir dans l'intérêt de leurs clients, article L533-11 du Code monétaire et financier. Autre exemple, le mandataire doit agir dans l'intérêt du mandant, article 1984 du Code civil, ou encore le dirigeant dans l'intérêt de la société, article L225-35 du Code de commerce. Pour reprendre deux exemples parmi ceux que je viens d'évoquer, l'exemple du mandataire. Pour le mandataire, c'est le pouvoir juridique qu'il détient d'agir dans l'intérêt du mandant qui va justifier différentes obligations spécifiques, telles que l'obligation de ne pas contracter au nom du mandant un emprunt et d'utiliser le montant à des fins personnelles. Autre exemple, c'est ce même pouvoir qui va justifier l'obligation de ne pas louer ou vendre pour un prix dérisoire un bien appartenant au mandant et recevoir par le bénéficiaire pour le service, une rémunération pardon, pour le service rendu. Ou encore, en cas de mandat double, le mandataire a l'obligation de représenter loyalement les intérêts opposés. Autre exemple, celui du dirigeant. Le pouvoir juridique du dirigeant lui impose, par exemple, de ne pas concurrencer la société pendant l'exercice de ses fonctions. Autre exemple, il a l'obligation de ne pas saisir, par exemple, ce que l'on appelle les opportunités d'affaires, c'est-à-dire une opportunité offerte à la société pour en faire profiter une autre personne ou une autre société dans laquelle le dirigeant est intéressé. Aux côtés de ce pouvoir attribué par la loi, il est également possible d'identifier un pouvoir contractuel. Le contrat peut en effet conférer à l'un des contractants la faculté d'imposer sa volonté à son co-contractant, ce qui est le cas des clauses de mobilité, par exemple, dans les contrats de travail. Cette conception normativiste présente l'intérêt d'identifier précisément plusieurs rapports de pouvoir, elle recèle aussi des limites liées à son caractère réducteur, en ce qu'elle ne rend pas compte de tous les aspects du pouvoir et de son régime. Ces limites sont principalement de deux ordres. D'une part, le pouvoir ne peut toujours être déterminé à partir de l'existence d'une norme attributive de pouvoir. Il faudrait, dans ces cas-là, admettre qu'il n'existe de pouvoir en droit privé que là où l'ordre juridique confère à l'une des parties une telle faculté. Deuxième limite, le pouvoir ne peut être réduit à l'édiction d'actes juridiques unilatéraux qui ne constituent qu'une facette de pouvoir. C'est donc aux côtés d'une conception normativiste que l'on va s'intéresser à une conception factuelle du pouvoir afin d'embrasser l'ensemble des relations de pouvoir en droit privé. Donc, dans une conception plus moderne, qualifiée de factuelle, l'existence du pouvoir dépend non pas de l'édiction d'une norme attributive de pouvoir, mais d'indices de pouvoir révélateurs de l'existence d'un rapport factuel. Dans cette situation, il convient de rechercher les éléments qui révèlent l'existence d'une relation de pouvoir. L'intérêt ici étant de reconnaître de nouveaux rapports de pouvoir qui s'affirment indépendamment de toute norme attributive. Dans cet objectif, il est possible de déduire l'existence du pouvoir de la terminologie utilisée par le droit. Par exemple, des concepts tels que la puissance, la dépendance, l'autorité peuvent être des indices de pouvoir. La façon dont sont nommées les parties au rapport, par exemple, l'utilisation du terme domestique, maître, qui sont encore présents dans notre code civil, sont des indicateurs d'une certaine conception de pouvoir. Mais à eux seuls, ils ne sont pas suffisants. L'analyse doit être développée à partir de critères. Trois critères du rapport factuel peuvent être dégagés. Le premier critère résulte de la détention de l'information. L'existence d'un rapport de pouvoir peut résulter donc de la détention par le présumé titulaire du pouvoir d'une information ignorée du présumé bénéficiaire. Le pouvoir résultant de la détention de l'information crée une asymétrie informationnelle et se traduit le plus souvent par une action d'influence sur la volonté d'autrui. Ce pouvoir, savoir, qu'on en appelle, il assure une supériorité lors de la phase de négociation du contrat. Pour protéger la partie la plus faible, ici, la jurisprudence a développé une obligation d'information au stade de la formation du contrat ainsi qu'au stade de l'exécution. Par exemple, en droit civil des contrats, dans les rapports entre professionnels et non professionnels. Dans ces cas-là, le non professionnel est toujours plus démuni, plus vulnérable, ce qui crée une inégalité. En droit des sociétés, on va apparaître cette situation dans les rapports entre le dirigeant et l'associé, lorsque, par exemple, le premier acquiert les droits sociaux de l'autre. Dans cette relation, le dirigeant occupe une position avantageuse par rapport à l'associé au regard de l'information. Il connaît les affaires sociales, il connaît éventuellement des négociations en cours sur la cession de contrôle de la société. Et dans cette position, l'associé fait confiance au dirigeant. Il est à la merci du dirigeant sur la détermination des droits sociaux. Et bien, dans cette situation, dans ce rapport de pouvoir, cette fois factuel, le devoir du dirigeant est un devoir de loyauté résultant de son pouvoir sur l'associé. Ce devoir, par exemple, va l'obliger à informer l'associé de l'existence de négociations en cours sur la cession de contrôle de la société, cette information étant cruciale puisque la négociation va indiquer le montant de droits sociaux qui est parfois supérieur à ce que pouvait prétendre l'associé. On retrouve également ce type de rapport en droit bancaire entre le banquier et son client, même le client potentiel. Deuxième critère du rapport factuel, celui qui résulte de la puissance économique. On va retrouver ici une asymétrie de pouvoir entre un dominant et un dominé. On retrouve ces rapports en droit de la consommation, en droit de la concurrence, également dans le cadre des contrats d'adhésion avec les contrats de franchise. Troisième forme de pouvoir, j'essaie de réduire, le pouvoir organisationnel. dans ce cadre de pouvoir factuel, c'est le rapport de travail qui est cette fois l'archétype des rapports affectés par le pouvoir organisationnel. Dans ce cas, c'est l'autorité de fait, c'est-à-dire le pouvoir factuel qui permet, par exemple, de déclarer une société employeur d'un salarié, bien qu'elle n'ait pas personnellement embauché ce salarié. En conclusion, je voudrais dire que si le pouvoir est donné à une personne, soit par la loi, soit par les circonstances de fait, c'est uniquement pour que son titulaire en use, sinon dans l'intérêt d'autrui, les différents intérêts qu'on a vus tout à l'heure, intérêt du mandant, intérêt de la famille, du moins dans un intérêt qui doit toujours être partiellement distinct du sien. L'on touche ici à l'intérêt, la détermination du pouvoir en droit, celui d'imposer de nouveaux devoirs, tels que le devoir de loyauté, aux personnes titulaires d'un pouvoir. Le pouvoir et la loyauté deviennent ainsi des notions incontournables en droit contemporain, partout où se niche un pouvoir dont l'homme a tendance à abuser. Je vous remercie. Merci.
Merci beaucoup, Karine Lemercier. Merci mille fois. Je suis très heureux que la voix du droit se soit exprimée à travers vous. C'est très passionnant d'avoir cette idée qu'il y a une résistance à l'introduction de l'idée de pouvoir, ou de la notion de pouvoir dans le droit privé, par peur d'une colonisation, comme vous l'avez dit, par le droit public. Merci pour cet exposé. Parfois, le droit, ce n'est pas toujours évident, ça peut être technique, mais c'est extrêmement éclairant pour nos sujets. C'est le moment de vous emparer du micro pour poser des questions. Voilà.
Ici, en haut, derrière la régie.
Monsieur ?
Oui, je voulais poser une question. C'est sur le droit coutumier en Nouvelle-Calédonie. J'aurais aimé que vous nous donniez un petit peu plus de détails sur le principe du pouvoir des chefs coutumiers, comme on a pu le constater, qu'il faut faire coutume si l'on veut avoir, par exemple, un logement, ou si on ne fait pas coutume, on n'est pas accepté par la communauté kanak, par exemple.
Dans la constitution française de 1958, mais ça a été repris d'avant, les kanaks ont un droit spécifique, on appelle le statut de droit particulier, qui n'est pas le droit commun, le droit ordinaire pour tous les citoyens non kanak de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une particularité, c'est l'article 75 de la Constitution, tout à fait particulier, qui reconnaît aux kanaks en matière foncière et en matière matrimoniale et en matière d'héritage familial, etc., l'exercice de leur propre droit ne se superpose pas, qui est distinct du droit français auquel les Français de ce territoire ou nous-mêmes ici sommes soumis. Donc ça, c'est une caractéristique forte qui est établie pour l'instant en Nouvelle-Calédonie. Alors sur ce droit coutumier, aujourd'hui, il est exercé dans les tribunaux d'instance et correctionnels par les juges de Nouvelle-Calédonie qui sont nommés par la ministre de la Justice, le ministère de la Justice, mais ces magistrats sont encadrés en matière de problèmes coutumiers, sont encadrés par ce qu'on appelle des assesseurs coutumiers, c'est-à-dire qu'ils doivent trancher en référence à la coutume kanak qui est explicité par ses assesseurs coutumiers. Bon. Donc on est dans une situation très particulière. Alors, pour ça, on ne peut pas employer le terme de chef coutumier ou de. Bon, on doit employer ces termes d'assesseur coutumier, de droit coutumier. Par exemple, dans le droit coutumier kanak, les enfants. En cas de séparation, en principe, le droit coutumier kanak ne reconnaît pas le divorce, les enfants sont automatiquement attribués au père. Voilà. Donc, s'il y a un litige devant le juge et que la personne, mettons la mère, est de droit particulier kanak, en principe, ce droit s'applique. Alors, il y a des modulations qui sont possibles, et le juge français, si vous voulez, est amené à essayer de trouver un compromis entre le droit français qui peut-être serait plus équitable envers les maires et puis le droit kanak qui ne l'est pas. Donc c'est l'objet d'un vaste débat actuellement en Nouvelle-Calédonie. Alors pour ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire du geste coutumier, c'est autre chose, c'est que toutes les relations sociales, dire bonjour, rendre visite, négocier une affaire, voilà, sont précédées d'un échange de biens. C'est ça qu'on appelle faire la coutume. En fait, c'est donner une étoffe, des cigarettes, un petit peu d'argent qu'on donne à la personne à qui on demande qu'elle vous accueille. Et cette personne, en retour, au moment où vous allez partir, va vous rendre l'équivalent de ce que vous avez donné. Alors, chez nous, on serre la main et éventuellement on abaisse une bouteille de rouge. Là, on procède à des échanges de paroles qui sont appuyés par des échanges de biens qui prennent des proportions beaucoup plus importantes dans les relations entre les clans, dans des deuils et des mariages. Donc voilà. Donc si vous voulez, on fait ces dons coutumiers à quiconque vous reçoit, à condition que cette personne ne soit pas membre de votre clan. Si vous êtes à l'intérieur de votre clan, vous n'avez pas besoin de faire ces échanges, mais dès que vous sortez, vous devez les faire. Donc voilà. Alors la notion de chef coutumier est une notion assez vague qui peut renvoyer à ces gens qui ne sont pas les chefs administratifs dont j'ai parlé tout à l'heure, nommés par la France. Donc ça peut être les chefs de clan, les maîtres du terrain, et un chef de famille, si vous voulez. C'est un terme que les Européens utilisent un peu un peu comme ça, d'une manière générale, mais concrètement, voilà ce qu'on peut dire de la coutume aujourd'hui. Alors, le litige ou la complexité plutôt actuelle, c'est qu'un certain nombre de Kanaks voudraient que ce droit particulier dont ils peuvent bénéficier en référence aux règles coutumières dans le cadre du correctionnel, par exemple, des tribunaux, soit étendu, par exemple, au droit pénal, ou même soit généralisé à l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire à tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il y a aujourd'hui une lutte, un débat sur que deviendraient les Kanaks en cas d'indépendance. Est-ce que il s'appliquerait pour eux un droit particulier, ou bien est-ce qu'il y aurait un droit généralisé à l'ensemble de la population? Et donc ça donne lieu à des épisodes assez compliqués de débats et à une tentative par les Kanaks parce que ce droit coutumier, il est oral, une tentative en faisant venir des juristes de France ou d'ailleurs pour que ce droit coutumier soit écrit. Voilà ce que je peux vous répondre, mais c'est l'objet d'un débat compliqué, mais voilà ce que je peux vous répondre. Et vraiment, ce qu'il faut vraiment avoir en mémoire pour comprendre ce qui va peut-être se passer en Nouvelle-Calédonie, c'est cette opposition entre le statut de droit particulier et le droit commun, qui est le droit français ordinaire.
C'était le forum Le Monde, Le Mans, un débat animé par Jean Birnbaum avec Alban Bensa, anthropologue, et Karine Grévin-Lemercier, juriste. Prise de son, Jean-Marie Porcher, réalisation, François Connac.